Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Donc, nous sommes le mardi 31 mai, dernier jour du mois de mai, et c'est le jour de la mensuelle radiophonique d'Amnesty Évreux, 19h-20h, sur l'antenne de Principe Actif, comme tous les mois. Et comme je le dis à chaque fois, vous avez plusieurs années de podcasts à réécouter sur le site de Principe Actif aussi. N'hésitez pas à nous réécouter et à nous écouter en direct. Il n'y a pas de problème pour savoir ce qu'on dit effectivement sur les ondes de Principe Actif chaque mois à propos de la défense des droits humains, puisque c'est pour ça qu'on intervient à la radio.
Et ils ont un nouveau site, Principe Actif.
Et ils ont un nouveau site, tout à fait. Et la personne que vous venez entendre, dont vous venez d'entendre la voix, c'est Edith, qui est avec
Bonsoir.
Nous ce soir. Il y a aussi Françoise.
Bonsoir.
Et il y a Ronan, bien sûr, qui est derrière la console et qui se dépêche de terminer de préparer je ne sais pas quoi, d'ailleurs.
Bonsoir.
Bon, et moi, donc, Ronan, c'est... Comment je m'appelle ? J'ai oublié mon nom.
Didier.
Merci. Voilà. Donc, une heure sur les droits humains. Comme tous les mois, on a de pas mal de sujets. Donc, ce soir, on va vous parler à nouveau de la crise des migrants et d'une action d'Amnesty qui démarre là en ce moment. C'est un sujet important, c'est même un sujet crucial par rapport à ce qui se passe. On va le développer dans quelques minutes. On va vous parler aussi du Yémen, on va vous parler des femmes, on va vous parler encore d'autres choses, on va vous parler de bonnes nouvelles, la spécialité à Ronan, on va vous inviter aussi à agir avec nous comme à chaque fois, etc. etc. Et je pense qu'à la fin de l'heure, on aura encore deux ou trois sujets qu'on n'aura pas eu le temps d'évoquer. C'est souvent le cas. Voilà, donc je vais vous parler en début d'émission, je vais revenir sur le dossier des réfugiés, on en a déjà parlé, mais je vais vous parler donc de cette campagne qui démarre. Je voulais quand même commencer l'émission en vous disant deux, trois petits mots, sur un aspect politique, quoique, c'est les dernières élections qui viennent de se passer en Autriche, pour la présidence de la République autrichienne. Vous n'êtes pas sans savoir que le président qui a été élu, qui est un écologiste, a gagné avec 30 000 voix d'avance.
Un drôle de choix de ce deuxième tour. Hein.
Voilà. Donc, 30 000 voix d'avance, c'est très peu. Et le candidat qui a été battu est le candidat qui représente le parti dont j'ai oublié le nom, le FPE, un nom comme ça. Enfin, c'est l'équivalent, en gros, du Front National chez nous. Bon, c'est pas pour parler du Front National ou de ce parti-là, c'est simplement pour dire que Amnesty défend les droits humains. Et parmi les droits humains, il y a une notion qui est fondamentale. On vous en a déjà parlé, mais c'est important de le garder en tête. Et si vous lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, c'est tout à fait transparent dans ce texte. C'est le respect de la démocratie. Le respect de la démocratie, il n'y a pas de société respectueuse de l'être humain s'il n'y a pas de démocratie. Ça, c'est une évidence. Et c'est le point de vue d'Amnesty qui a toujours été le sien et qui le sera toujours. Quand vous lisez les programmes électoraux de partis extrêmes, dirons-nous, vous apercevez effectivement que les notions de démocratie sont largement, sont largement dévoyées, sont largement maltraitées, plus ou moins, alors c'est dit de façon plus ou moins diplomatique, de façon plus ou moins hypocrite ou de façon plus ou moins malsaine, je dirais. Mais à chaque fois, effectivement, il y a des exactions par rapport à ça. Et les sociétés qui en découlent, l'histoire l'a toujours montré, hein, je veux dire, on n'a rien inventé à Amnesty, on a fait simplement que constater les faits, et on continue à constater les faits. Les preuves historiques montrent bien, effectivement, que toute atteinte à la démocratie, on sait où ça commence, on ne sait jamais où ça finit. En général, ça finit en massacre, ça finit en exécution arbitraire, ça finit en interdiction de la liberté d'expression, ça finit en interdiction des droits fondamentaux des femmes, des minorités, de tout ce que vous voulez. Et tous ces partis-là, effectivement, et celui qui a failli arriver à la présidence de la République en Autriche, ne déroge pas à la règle. Et il y a des choses, effectivement, dans son programme qui peuvent dévier comme ça. Il faut toujours en avoir conscience. Encore une fois, chacun est libre de s'exprimer. On est pour la démocratie, c'est une évidence. Mais il faut toujours avoir conscience des pièges dans lesquels la démocratie peut tomber. Parce que l'histoire, encore une fois, on est pleine d'exemples.
Didier, voilà. Je pense qu'on pourrait dire que par rapport au sujet que tu vas nous, dont tu vas nous parler, c'est vraiment le cœur du projet de, cette, de ces élections. Il y avait vraiment une question de peur.
Exactement.
De peur des Autrichiens par rapport aux réfugiés.
Tout à fait.
Donc c'est là aussi qu'il faut vraiment que les gens comprennent un peu ce qui se passe et se rendent compte de la réelle détresse des gens qui viennent en Europe.
C'est clair. C'est clair. Et je vais vous donner dans ce petit dossier que je vais vous traiter maintenant, je vais vous donner aussi quelques chiffres qui sont des chiffres surprenants. Par rapport aux idées qu'on se fait sur les opinions générales vis-à-vis de l'accueil des réfugiés. Bon, je vais commencer par le dossier, par vous lire un petit communiqué qui est un communiqué signé de Salil Chetty, qui est le secrétaire général d'Amnesty International, qui a été publié le 23 mai dernier, donc qui est très récent, et qui parle de droit humanitaire mondial et qui dit « Le non-respect du droit international à l'origine de la crise des réfugiés ». À moins que les dirigeants du monde ne s'attaquent résolument au non-respect généralisé du droit international qui force des millions de personnes à partir de chez elles, aucune des mesures prises pour améliorer le système d'aide humanitaire ne permettra de résoudre la crise des réfugiés, a déclaré Amnesty International en amont du sommet humanitaire mondial, dont je vais vous reparler tout à l'heure. Alors que le monde se trouve confronté à la pire crise humanitaire et des réfugiés qu'il ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a décidé de convoquer un sommet humanitaire mondial à Istanbul. Cette initiative vise à réaffirmer l'engagement pris par des dirigeants mondiaux de venir en aide aux millions de personnes touchées par un conflit ou une catastrophe. Les violations massives du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits humains sont à l'origine de cette crise mondiale des réfugiés. Les conflits sont rapidement en train de devenir des zones où règne la loi de la jungle et ce sont les civils qui en payent le prix fort, a déclaré Salil Chetty. Actuellement, les auteurs de crimes de guerre peuvent lâcher des bombes de manière aveugle, sans qu'ils aient à répondre de leurs actes. Et il n'existe pas de système permettant de partager la responsabilité de la protection des millions de personnes déplacées à cause de tels agissements. Nous traversons une époque sombre. Il est absolument nécessaire que les dirigeants du monde, réunis lors du sommet humanitaire mondial, réagissent de manière décisive.
Quand est-ce qu'il aura lieu, ce sommet humanitaire ?
Au mois de septembre.
En septembre.
Je vais en parler tout à l'heure, effectivement, le 19 septembre, si j'ai bonne mémoire. Enfin, je vais vous préciser la date que j'ai dans les papiers, là, juste derrière. Il est absurde de s'attendre à une amélioration des interventions humanitaires alors que des hôpitaux de campagne ne cessent d'être bombardés et que les civils sont régulièrement pris pour cible sans que les responsables de ces actes ne soient inquiétés. Aucun système d'aide humanitaire efficace ne pourra être mis en place tant que le droit international ne sera pas respecté et appliqué. Donc, il est précisé après que donc, Salil Chetty, secrétaire international d'Amnesty, interviendra lors du sommet humanitaire et il sera disponible pour des entretiens. Face aux violations du droit international humanitaire et aux atteintes des droits humains, aux mesures proposées par l'ONU pour résoudre la crise mondiale des réfugiés, qui pourraient changer la donne si les gouvernements prennent de véritables engagements, et à la situation des droits humains en Turquie et au traitement réservé aux réfugiés. Donc ça, c'est la déclaration générale qui est faite en amont de ce sommet. Et ce qu'il faut savoir, je vais vous en dire un petit mot tout de suite, c'est qu'on se dit effectivement, oui, enfin, c'est l'argument qui est donné entre autres par les partis extrémistes dont on parlait tout à l'heure, on ne peut pas accueillir des millions de gens chez nous, on a trop de problèmes.
On ne sera plus chez nous, qu'est-ce qu'ils vont faire chez nous, ces gens-là ?
On n'a plus les moyens, tout ça on en a déjà parlé dans les émissions précédentes en disant que c'était absolument faux, que c'était un choix de financement des États, mais si les États sont correctement financés, il n'y a aucun problème par rapport à tout ça. Bref, on ne va pas revenir, réécouter nos émissions. Mais par contre, effectivement, ce discours-là, ben, dans la population, il passe en partie. Il passe en partie au moins. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Amnesty a fait un sondage au niveau international. Enfin, a fait faire un sondage par un organisme habilité à faire ce genre de choses. A fait faire un sondage et dont les résultats sont tout à fait à l'opposé de ce qu'on peut s'imaginer. Alors, le sondage dit « Le monde veut se mobiliser pour les réfugiés ». Refoulés, détenus, livrés à eux-mêmes, stigmatisés. Les responsables politiques jouent la carte de la surenchère. La surenchère pour dire on ne peut pas les accueillir, comme on disait. Mais au nom de qui ? Portant sur 27 pays, le sondage mondial que nous avons réalisé révèle que 80% des personnes interrogées sont prêtes à accueillir les réfugiés dans leur pays. Des résultats positifs partout dans le monde. Et je vous le donne en mine, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je m'adresse aux gens du groupe d'Amnesty qui sont là.
Vous l'avez vu, le premier
pays dont la population est prête à accueillir des réfugiés, c'est la Chine. On ne s'attendrait pas effectivement à voir la population chinoise. Ils sont prêts à soutenir une action d'accueil de réfugiés à 80%.
Alors, je me poserai des questions quand même, parce que pour le Tibet, ils les ont accueillis bizarrement quand même.
Oui.
Tout à fait. Mais bon, encore une fois, c'est un sondage.
Après, il y a peut-être une population chinoise.
Bon. Juste après, on trouve le Royaume-Uni, l'Australie, etc. La France a une opinion favorable par rapport aux réfugiés d'environ un peu moins de 60%.
En septième position.
Voilà, je ne vais pas tous les lire. Il y en a un certain pays. Il y a Françoise qui regarde son papier en même temps. Et le bon dernier, et on ne sera pas trop surpris par rapport aux déclarations et au bourrage de mou, pourrait-on dire, de notre ami... Sabine n'est pas là ce soir, mais notre ami Poutine.
C'est ton ami à toi.
L'opinion telle qu'elle a pu être sondée en Russie ne serait favorable à l'accueil des réfugiés qu'à un peu moins de 20%.
Bon. Bah, ils accueillent l'Ukraine, l'autre.
Bon, voilà. Pour continuer sur ce sondage, il est dit aussi que la presque totalité des Allemands, 96%, ont indiqué qu'ils accepteraient des réfugiés dans leur pays. Encore une fois, et jusqu'à présent, c'est le pays d'Europe qui en accueille le plus. Au Royaume-Uni, 87% des personnes interrogées souhaitent accueillir des réfugiés pour leur pays. Et 82% des personnes interrogées souhaitent accueillir des réfugiés ici, en France. Dans les pays qui ont déjà accueilli de nombreux réfugiés, les degrés d'acceptation ne semblent pas être en baisse, contrairement à ce qui nous est dit aussi. Ainsi, la Jordanie, qui accueille plus de 600 000 réfugiés. Il y a 600 000 réfugiés qui viennent de Syrie, en Jordanie. Regardez sur une carte à quoi ressemble.
La Jordanie, c'est tout petit.
C'est tout petit. Voilà, ça fait quelques départements français.
C'est un petit confetti,
quand même, oui. Ils accueillent 600 000 réfugiés. Nous, en France, on en est à quelques milliers. Moi, je ne sais plus exactement le chiffre.
Même pas, oui, parce que les derniers qui devaient arriver ne sont pas arrivés, quoi. Ceux qui étaient en relocalisation. Oui.
Et la Grèce, où environ 850 000 réfugiés et migrants sont arrivés en 2015, figure parmi les 10 premiers pays du classement. Favorable au droit d'asile, le public attend plus de leur gouvernement. Alors là, il y a un petit tableau après qui dit qu'effectivement, bon, il y a largement plus de la moitié de gens qui sont plutôt d'accord ou tout à fait d'accord pour accueillir des réfugiés. Et donc, il est dit aussi que dans plusieurs pays qui sont au cœur de la crise de l'accueil des réfugiés, 3/4 ou plus des personnes voudraient que leur gouvernement en fasse encore plus, en Allemagne, en Grèce et même en Jordanie, comme on le disait.
Et par qui a été fait ce sondage ?
Alors, je vais le dire, il a été fait par un organisme, parce que Amnesty donne toujours ses sources, qui s'appelle Global Scan. Il a été fait entre décembre 2015 et avril 2016.
Ah oui, c'est intéressant.
Il est précisé que cet institut est spécialisé dans les sondages internationaux et qu'il opère notamment pour les agences de l'ONU. Voilà.
Du sérieux.
Donc, c'était publié, bien évidemment, volontairement par Amnesty, en attendant ce fameux sommet de septembre dont on vous a déjà parlé par rapport à la crise des réfugiés. Et c'est ce qui amène Amnesty, et ce sera le dernier point de ce petit dossier, ce qui amène Amnesty à faire campagne auprès des autorités françaises. Parce qu'effectivement, encore une fois, la France est plus que frileuse, c'est même ridicule. Et donc, on demande aux autorités françaises, on fait campagne pour ça, pour qu'enfin une campagne d'accueil des réfugiés de grande envergure. Encore une fois, on précise que les réfugiés, ce sont des gens qui cherchent à sauver leur vie, que ce soit majoritairement en Syrie à l'heure actuelle, et il est bon de rappeler des choses, en Érythrée aussi, au Soudan, etc., etc., mais plus principalement en Syrie, vu la guerre civile absolument insupportable qui s'y passe. Encore une fois, quand on parlait de tortionnaire, M. Bachar el-Assad est toujours en liberté. Tiens donc. C'est principalement des réfugiés syriens, mais encore une fois, ce sont des gens qui cherchent simplement à sauver leur vie et que c'est une notion qui est bien évidemment prise en compte dans le droit international. Toute personne dont la vie est menacée a le droit de demander asile dans le pays de son choix. Tous les États du monde ont signé ce texte. Il faudrait peut-être un jour l'appliquer. Donc, il est précisé dans un petit texte récapitulatif fait par Amnesty sur le dossier que donc, depuis 3 ans, le monde fait face à une crise mondiale des réfugiés, que selon les Nations Unies, 20 millions de personnes ont été forcées de quitter leur pays, 20 millions, et 86 d'entre elles ont trouvé refuge dans un pays en voie de développement. Dans ce contexte, les États et leurs sociétés sont appelés à être solidaires, à la fois des réfugiés et des États, qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés. Par exemple, la Turquie, qui accueille 2,7 millions de réfugiés, le Liban, dont 1/4 de la population est réfugiée, 1/4. Ou le Kenya, qui héberge le plus grand camp de réfugiés du monde. Cette solidarité peut s'exprimer par l'accueil organisé de réfugiés, notamment les plus vulnérables. Cet accueil permet d'éviter que les réfugiés ne soient contraints d'emprunter des routes dangereuses en ayant recours à des personnes sans scrupules pour se mettre à l'abri. Là, je fais un petit aparté que j'ai déjà dit, mais qu'il est bon de répéter. C'est que quand on parle, effectivement, les autorités françaises disent facilement par rapport aux gens qui veulent traverser la Méditerranée et qui se noient, il y en a régulièrement, il y en a eu des milliers depuis quelques années, hommes, femmes et enfants, et qui rappellent qu'en fait, ces gens-là sont amenés à traverser la Méditerranée à cause des passeurs, c'est inverser les termes du problème. Les passeurs n'existent, les passeurs c'est la mafia, les passeurs n'existent parce qu'il y a un marché entre guillemets de réfugiés, de gens qui cherchent à fuir, et comme ils n'ont pas de parcours sécurisé, c'est-à-dire comme ils ne sont pas pris en charge par les États directement à partir des côtes syriennes ou des côtes proches, ils n'ont plus de recours que se mettre entre les mains de la mafia et de bateaux tels qu'on les voit aux informations qui coulent en cours de route pour essayer de trouver abri. Donc il ne faut pas inverser les termes du problème.
Il y a eu encore beaucoup de naufrages là parce que le beau temps est revenu c'est horrible d'imaginer ces gens qui partent sur des bateaux complètement empiriques. Quoi.
Tout à fait. Et donc cette histoire de passeurs n'existe parce que les États ne remplissent pas leur rôle. Ce n'est pas autre chose. Si les États remplissaient leur rôle et assuraient des parcours sécurisés, les passeurs n'existeraient pas. Accueillir des réfugiés, c'est ce que dit Amnesty. Les Nations Unies appellent ainsi les pays riches à accueillir des personnes vulnérables, notamment les mineurs isolés, les femmes seules avec enfants, les victimes de la torture, les personnes vulnérables du fait de leur identité sexuelle ou les personnes qui ont des besoins médicaux urgents. Plus d'un million de réfugiés ont de toute urgence besoin d'une réinstallation. À ce jour, les États ont seulement offert 100 000 promesses d'accueil, soit un dixième de ce qui est nécessaire. La France doit aller plus loin. Depuis le début du conflit en Syrie, il y a 5 ans, la France a réinstallé sur son sol près de 2000 réfugiés. Voilà, on cherchait les chiffres tout à l'heure.
On n'ose même pas le répéter tellement ouais. C'est...
2000.
C'est petit.
Ouais.
Vulnérables, essentiellement syriens. À la fin du mois d'avril 2016, la France s'est engagée à accueillir 9000 personnes de plus sur les 2 prochaines années. Ah, ça s'améliore un peu.
Oui, enfin, mais entre les engagements et la réalité, c'est, malheureusement, ces gens-là n'arrivent pas.
Notre responsabilité partagée est d'aller plus loin pour être solidaires à la hauteur de nos moyens et à la crise que nous traversons. Bon, tout un texte, bon ça je ne vais pas vous le dire, tout un texte par rapport aux notions de réinstallation, etc. vis-à-vis de l'État français. Bon, vous pouvez retrouver ce texte-là sur le site d'Amnesty si ça vous intéresse, hein, www.amnesty.fr, n'hésitez pas à y aller. Je vais simplement conclure ce petit dossier en vous expliquant effectivement cette action qui commence, puisqu'on vous en parle depuis le début. Cette action qui commence maintenant au mois de juin, lancée par Amnesty International France et qui va durer tout l'été, jusqu'au mois de septembre, puisque ce sommet de l'ONU a lieu au mois de septembre.
C'est l'action des festivals, non ?
C'est l'action qu'on va présenter effectivement au Festival Rock, dont on va vous reparler tout à l'heure.
Dans toute la France, je pense.
Voilà. Alors, pourquoi cette campagne ? Parce qu'on m'en a dit, 20 millions de personnes réfugiées dans le monde, 86% restent dans les pays les plus pauvres, autour des pays qui ont été fuis par les personnes en danger. Plus d'un million de réfugiés parmi les plus vulnérables, comme on vient de le dire, environ 100 000 places ont été ouvertes en 2014. En Europe, 100 000 places en Europe. Les personnes continuent de mourir pour se mettre en sécurité. Il est de plus en plus urgent d'ouvrir des voies légales et sûres, en particulier pour les réfugiés les plus vulnérables. La France a promis environ 2375, ça c'est précis, hein, places pour les réfugiés dans le cadre de la réinstallation.
Une trentaine... Si on divise par le nombre de départements, par le nombre de villes, par le nombre de villages, c'est vraiment ridicule.
C'est ridicule.
Comme dire, non,
et même au niveau de l'Europe. Même au niveau de l'Europe,
oui, quand on parle de la France.
Quand tu vois la Jordanie, tous les pays qui sont autour, c'est ridicule. Ouais.
Une trentaine de municipalités se sont déclarées favorables à l'accueil des réfugiés dans le cadre de la campagne Accueillir des réfugiés de Syrie. Ah, une trentaine de municipalités.
Eh ben, enfin, pas Évreux, on n'a pas de réponse.
Pour l'instant, monsieur le maire d'Évreux n'a jamais répondu. On va le relancer d'ailleurs.
Ouais, on va relancer.
On
même
l'avait
les
contacté
maires
l'année dernière.
Il est peut-être parti en vacances.
On l'avait contacté l'année dernière, mais n'a pas répondu. Il n'a peut-être pas eu le temps de répondre. Deux opportunités pour influencer le débat sur la réinstallation se présentent. Et donc, c'est pour ça que cette campagne est lancée. Le sommet de l'Assemblée générale des Nations unies dont on parlait,
tu nous l'as dit,
le 19 septembre 2016 sur la crise des réfugiés. C'est donc le 19 septembre, comme disait Françoise.
Oui, j'ai entendu.
Et au niveau européen, la Commission européenne doit publier courant 2016, alors on n'a pas de date, une proposition relative à un dispositif de réinstallation contraignant pour les États. Alors ça veut dire quoi ? Juste un petit mot. C'est que donc, effectivement, on vous dit qu'il y a plusieurs millions de personnes qui sont en situation précaire, femmes, enfants, malades, etc., etc., qui ont besoin d'être réinstallées, c'est-à-dire sorties des pays, genre le Liban, la Jordanie,
sortir
etc.
Sortir des camps où ils
des
sont.
Camps, voilà.
Parce que s'ils sont réinstallés, c'est qu'ils sont déjà sortis du pays et qu'ils ont déjà été vus.
C'est ça. Mais donc, ils doivent être restés dans des conditions normales, disons, de vie.
Parce que quand tu vois les camps...
Et donc, c'est ça, la réinstallation. Et donc, la Commission européenne doit publier, dans le courant de cette année, des directives supposant imposer aux États membres de la communauté européenne, donc la France, un certain nombre de gens à réinstaller, sans demander l'avis aux États, en disant « vous allez le faire ».
On peut dire que quand on voit la position de tous les États qui sont les plus proches des réfugiés, je ne parle pas de la Grèce qui, eux, aide vraiment les réfugiés avec des moyens très limités, quand on sait la situation économique grecque, mais quand on voit tous les pays de l'Est de l'Europe, comment ils bloquent leurs frontières et comment ils ont monté des murs, on a quand même du mal à croire qu'on va les forcer. Alors nous, on est derrière ça, on est plus protégés, mais Voilà, c'est qu'est-ce que peuvent faire les gens? Qu'est-ce que vous allez demander au ROC?
Alors, donc l'objectif de la campagne, c'est ça, l'objectif de la campagne, c'est pour faire pression auprès des autorités françaises pour admettre plus de réfugiés via la réinstallation. Alors, les objectifs précis, pardon, sont: la France promeut auprès de ses partenaires européens et internationaux la réinstallation et l'ouverture de voies légales et sécurisées d'accès à une protection à l'occasion de discussions et décisions prises sur ces sujets. Premier point. Deuxième point, la France prend l'engagement de procéder à l'admission de plus de réfugiés sur son territoire de façon pluriannuelle. Volontairement, Amnesty, quand il dit plus de réfugiés, ne donne pas de chiffres. Parce qu'effectivement, il ne faut pas considérer que ce soit quelque chose qui est, entre guillemets, pas un ultimatum, mais quelque chose qui est parachuté. Donc on demande que la France prenne l'engagement d'en accueillir plus.
Davantage.
Voilà. Donc voilà les buts de l'action. Après, ça va être mobilisé sur différents appels au public avec des pétitions dont je vais vous parler.
On va demander à toutes les personnes qui ont dit qu'ils étaient OK par rapport au premier sondage qui viennent signer.
Voilà.
On était combien, Françoise, les Français?
On était
en 7e position, ouais,
ils vont venir avec nous.
On était à 60% en gros d'opinion favorable.
Avec tous les festivals qu'en France cet été,
je pense que 60% de Français favorables.
Donc il va bien sûr y avoir cette pétition, cette pétition à signer. Et nous, en tant que groupe, on va le faire. Bon, ça, ce n'est pas une action qui va être demandée au sein du public. On va faire dans le cadre des manifestations. On va également écrire aux autorités, aux maires, aux députés, aux sénateurs, pour que les maires prennent l'engagement, effectivement, de chercher des solutions pour créer des centres d'accueil pour ces réfugiés. Et pour les députés et sénateurs, pour qu'ils fassent pression au niveau politique.
Ça, nous, on va faire les courriers, on va faire les choses, mais n'importe quel hébreuicien peut écrire au maire, peut écrire à son député en disant: moi, je suis d'accord, j'aimerais bien qu'au moins on puisse partager un peu notre vie hébreuicienne avec des familles de réfugiés.
Ce qu'on peut faire aussi, on n'y avait pas du tout pensé, mais ça me traverse l'esprit, là, c'est de dire en écrivant sur notre mail du groupe ici, c'est-à-dire amnesty.evreux@gmail.com, s'il y a des gens qui veulent effectivement se manifester auprès du maire, ils peuvent nous envoyer des mails. Et nous, on se charge, puisqu'on va écrire à monsieur le maire très rapidement, on se charge de faire une compilation de tout ça et de lui faire suivre disant: vos administrés se manifestent aussi via Amnesty
Evreux. Voilà, et ils peuvent déjà l'envoyer et nous faire une copie. Et on saura lui redire aussi.
Voilà.
C'est comme
donc,
ils veulent.
Donc vous envoyez un mail amnesty.evreux@gmail.com en précisant bien sûr que c'est pour l'accueil des réfugiés. Peut-être.
Parce qu'il faut casser cette peur et dire: voilà, nous, on est tout simple, on a envie que les gens...
Donc, voilà l'action. Alors, juste pour terminer, je voulais simplement vous lire...
Attention, Didier, le temps va bientôt être limité.
Oui, oui. Non, mais
d'abord, je vais lui couper la parole.
On veut une pause.
Je vais simplement vous lire le texte de cette fameuse pétition. Encore une fois, ce n'est pas la seule action, mais l'action grand public, bien sûr, c'est la pétition, qui reste au moyen traditionnel.
C'est
mais
ça que vous allez signer.
Alors, voilà le texte de la pétition. Vous l'avez déjà en ligne sur le site d'Amnesty. Vous pouvez déjà le signer depuis il y a quelques temps. C'est dit de la façon suivante. Monsieur le Président de la République, le monde vit actuellement une crise qui a jeté des millions de personnes sur les routes de l'exil. La grande majorité des réfugiés se trouvent dans les pays en développement, où ils n'ont d'autre choix que de survivre sans avenir dans un pays qui peine à les accueillir ou de risquer leur vie en mer. Nous devons leur offrir une autre voie. Comme d'autres pays d'Europe et du monde, la France a la capacité d'offrir des places d'accueil à davantage de réfugiés. Je vous demande de réinstaller davantage de réfugiés vulnérables, d'accorder plus de visas humanitaires pour les réfugiés, de réunir les familles de réfugiés en facilitant le rapprochement familial. La crise des réfugiés est l'affaire du monde, de tout le monde. Au nom de la France, faites le choix de l'accueil. Nous vous prions d'agréer, etc., etc., etc. Voilà. Donc, un petit résumé de l'action, c'était celle-là. Ça va durer tout l'été. Vous nous retrouvez au Festival Rock.
Et on fait une pause.
En parlant de rock, une petite musique.
Musique.
Françoise, votre musique.
Treat you so bad. You shouldn't take it so personal. I didn't mean to make you so sad. You just happened to be there, that's all. When I saw you say goodbye to your friends and smile, I thought it was that well understood that you'd be coming back in a little while. I didn't know that you were saying goodbye for good. Sooner or later,
you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. I couldn't see what you could show me. Your scarf had kept your mouth well hid. I couldn't see how you could know me, but you said you knew me, and I believed you did. And when you whispered in my ear me if I was living with you or her, I didn't realize just what I could hear. I didn't realize how young you were. Oh, sooner or later, one of us must know that you're just doing what you're supposed to do. Couldn't see when it started snowing. Your voice was all that I heard.
Donc on vient d'entendre, c'est toujours sur le disque qu'on vous a
la
déjà
voix
passé. Chimes of
C'était
Freedom,
moi.
Les chansons de Bob Dylan, un disque, enfin un quadruple album fait en soutien à Amnesty il y a quelques années. Et c'était une reprise de Bob Dylan qui s'appelle One of Us Must Know.
Et heureusement qu'ils ont fait ce CD parce qu'à chaque fois on le passe.
Ouais, pas à chaque fois.
Les gens qui en ont marre pourront le dire.
Non, je suis pas d'accord.
Non, mais c'est histoire de dire. Non, parce qu'à chaque fois j'oublie des CD. C'est vrai que grâce à ce CD.
Donc maintenant il y a Edith qui va vous parler du Yémen, il y a Françoise qui va vous parler de la situation des femmes, et il y a Ronan qui va vous annoncer quelques bonnes nouvelles. Et moi j'arrête de parler.
À toi Edith.
Alors moi je vais vous parler d'un conflit au Yémen qui ne fait pas l'actualité de nos médias. Et pourtant depuis au moins l'année dernière, mars 2015, il y a là-bas des combats violents qui se déroulent. Des combats qui sont censés soutenir le président du Yémen contre un groupe armé, les Houthis. Et ceux qui soutiennent ce président, c'est une coalition avec à la tête l'Arabie Saoudite qui a lancé les premières frappes aériennes contre le groupe armé des Houthis en mars 2015, déclenchant un véritable conflit armé dans lequel toutes les parties ont commis de nombreuses atteintes au droit international humanitaire et aux droits humains, et notamment de possibles crimes de guerre. Le porte-parole de la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite a déclaré la semaine dernière, donc là c'était, j'ai pris un document qui est de mars 2016, que les opérations de combat de grande ampleur s'achèveraient bientôt, mais a ajouté que la coalition continuerait à fournir un soutien aérien aux forces anti-Houthis. Donc on n'est pas prêt de terminer. Donc Amnesty, depuis le début de ce conflit, a mis pas mal de communiqués de presse, déjà pour dire qu'il y avait plus de 3000 civils, dont 700 mineurs qui ont été tués. Au moins 2,5 millions de personnes qui ont été forcées de quitter leur foyer au cours de l'année écoulée. Et au moins 83% de la population du Yémen requiert une assistance humanitaire en urgence. Alors la problématique de ce conflit, c'est l'inégalité, on va dire, entre le groupe des Houthis et l'Arabie Saoudite. Il y a énormément d'armes qui sont dans cette coalition. Et le flux, Jem Lynch, qui est un coordonnateur d'Amnesty, dit que le flux d'armes irresponsable à destination des parties du conflit au Yémen contribue à des souffrances civiles à grande échelle Et il est temps que les dirigeants mondiaux cessent de faire primer les intérêts économiques sur le reste et que le Conseil de sécurité des Nations Unies impose un embargo complet sur les transferts d'armes voués à être utilisés au Yémen. Alors on retrouve la problématique d'Amnesty sur le transfert d'armes et la limitation des armes. Hein, contrôle armes, Ronan, ça te dit quelque chose, cette fameuse campagne?
Tout à fait.
Voilà, donc là, on est aussi dans une problématique.
Une campagne photographique.
Voilà, une problématique sur qui a les armes, qui les achète et où arriveront-elles et quelles sont les victimes civiles. Donc, le 25 février de cette année, le Parlement européen a déclaré un embargo sur les armes en provenance de l'Union européenne, destinées à l'Arabie saoudite, qui est à la tête des forces de coalition. Le 15 mars, c'est le Parlement néerlandais qui a demandé au gouvernement de suspendre les transferts d'armes vers l'Arabie saoudite. En France, il y a actuellement sur le site d'Amnesty une pétition pour demander au président Hollande de ne pas vendre d'armes à l'Arabie saoudite ou à la coalition. Alors, ce qu'il y a, les pays qui sont les plus forts producteurs, vendeurs d'armes, c'est les pays anglo-saxons. Mais ce qui existe avec ces armes-là, c'est qu'il y a des violations qui sont commises dans les deux camps. Au cours de l'année passée, il y a eu des forces aériennes incessantes menées par l'Arabie saoudite et ses alliés, des attaques lancées au sol, soit par des combattants houthis ou leurs alliés, soit par les forces anti-houthis, c'est-à-dire que la population civile est vraiment complètement pris au piège. Il y a un mépris choquant des vies civiles et une atteinte flagrante du droit international humanitaire. Depuis le début de l'année, Amnesty a recensé au moins 30 frappes aériennes à travers le pays, attribuées à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Ces frappes ont coûté la vie à de nombreux civils. Et il y a aussi, même ce qui est absolument très grave, des attaques d'hôpitaux, d'écoles, des marchés, des mosquées qui pourraient constituer des crimes de guerre. Alors, un exemple, le 15 mars dernier, sur un marché, il y a eu au moins 45 civils qui ont été tués, d'autres blessés. Alors, il paraît que sur ce marché, il y avait effectivement des soldats houthis, mais on n'en est pas sûr. Mais toujours est-il que, d'après les textes internationaux, quand il y a un risque que le combat attaque des civils ou les mette en ligne de mire, on doit arrêter le conflit, on doit reporter l'attaque. Donc, toute cette coalition est complètement hors les textes internationaux.
Ça constitue des crimes de guerre.
Et il n'y a pas d'informations sur ces attaques. Il n'y a pas d'enquête crédible et objective. Donc, cela reste des on-dit, mais on voit tout à fait la population civile qui est vraiment aux aguets. Alors, il y a aussi par rapport, puisqu'Amnesty, vous savez, il regarde aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc là, je vous parlais de la coalition avec l'Arabie saoudite, mais aussi les attaques terrestres menées sans discrimination ou de manière très imprudente par les combattants loyalistes pro-Houthis ou Sahel. Donc là, elles ont tué aussi de nombreux civils. Ces combattants utilisent des armes imprécises, telles que des mortiers, dans des zones résidentielles où habitent des gens, qui constituent là aussi une violation du droit international humanitaire. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un régime d'arrestation arbitraire de la part des Houthis, d'incarcération et d'enlèvement d'opposants, avec aussi des risques de torture. Donc les opposants, ce sont des militants, des journalistes qui mènent une campagne de répression et qui visent aussi les organisations non gouvernementales. Donc on va dire malheureusement que toutes les parties de ce conflit n'obéissent pas du tout aux droits internationaux humanitaires. Alors, ce que l'on peut dire en plus, c'est que les Houthis, eux, dans la région qu'ils occupent, ils ont aussi bloqué des livraisons de carburant, des fournitures essentielles, des fournitures médicales, des denrées alimentaires. Et, bien entendu, qui se retrouvent les victimes? Ce sont les habitants pris au piège, privés de produits de première nécessité. Donc, c'est un conflit vraiment avec des armes actuelles, mais avec des conséquences, on dirait, pratiquement moyenâgeuses, pour la vie des Yéménites. Hein. C'est vraiment terrible. Donc, Cem Litz d'Amnesty redit que le fait d'entraver l'aide humanitaire aggrave les profondes souffrances des civils dans une grande partie du pays. et que c'est aussi la possibilité d'avoir une assistance humanitaire et aussi dans les lois internationales. Alors, ce qu'on peut dire aussi dans les armes, parce que là, j'ai pas trop parlé des armes, mais il y a, semble-t-il, des armes à sous-munitions. Alors, vous vous rappelez ce que c'est les armes à sous-munitions, Ronan ?
Oui.
La grosse bombe qui éclate.
Il y a plein d'écrous dedans.
Il y a plein de petites munitions qui arrivent. Donc là, c'est aussi des armes qui sont interdites.
Oui.
À l'utilisation et malheureusement, même si la coalition d'Arabie Saoudite dit non, on n'en a pas, peut-être, il y a peut-être eu, bon, manifestement, il y a eu des armes parce qu'on a retrouvé des éclats. Et sur une partie du pays où les combats s'étaient un petit peu calmés, ben, les civils étaient revenus. Et comme ces armes-là ne sont ni déclarées, ni notifiées sur des plans...
Il n'y a pas de traçabilité.
Quand les civils reviennent, eh bien, il y a de nouveau des gens qui sautent sur des armes qui n'ont pas été enlevées. Donc, il n'y a pas de déminage.
Mais qu'on voit qu'aujourd'hui, on retrouve toujours des mines qui datent de la guerre 39-45. Alors, oui. T'imagines là le nombre.
Voilà. Donc, il y a des civils qui sont blessés par des explosions. Et c'est malheureux. Ces gens qui pensaient que le conflit était un petit peu parti de leur région, qui revenaient, sont encore victimes de ce conflit-là. Donc Amnesty demande que la communauté internationale soit un petit peu plus vigilante, qu'il n'y ait pas de vente d'armes, qu'il n'y ait pas de transfert, qu'il y ait une transparence aussi sur les armes qui ont été déjà malheureusement envoyées sur le pays pour qu'on puisse savoir où elles sont et qu'on puisse envoyer des démineurs. Donc c'est vraiment une situation très très compliquée qui malheureusement ne va pas s'arrêter actuellement. Mais pour montrer un peu l'engrenage des armes, je crois que là c'est vraiment typique. C'est un conflit qui est un conflit au niveau du Yémen qui est parti avec cette coalition qui elle-même utilise, on va dire, dépasse les lois et qui ne fait pas du tout... qui ne va pas du tout arrêter le conflit. Et les civils sont en première...
Oui, c'est eux qui trinquent.
Comme toujours.
En première ligne. Donc voilà, je pense que c'est un décortiquage rapide de ce conflit et un peu de toute la problématique des ventes d'armes et aussi des... À partir du moment où on n'obéit pas, où on n'accepte pas de sauver les civils et de respecter les lois humanitaires.
Ça rejoint ce qu'on a développé dans la première partie avec les réfugiés. Effectivement, les réfugiés, après, sont des conséquences de ce genre de conflit. Et puis, autre point, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus qu'un des pays qui est responsable de la coalition qui agresse le Yémen, c'est l'Arabie Saoudite, le voisin, et que l'Arabie Saoudite est un grand client de l'armement français.
Alors, les Français ne sont pas les premiers, moi j'ai été étonnée. Par rapport à la quantité d'armes vendues en France, on est client, mais c'est l'Australie, l'Angleterre, je crois aussi.
Ah, je pensais que c'était les Russes, pas pour Yémen.
Non, c'est en Syrie.
Allez, Rona, donne-nous des bonnes nouvelles.
Ouais, parce que là, on va en reparler, voilà. Et c'est bien triste.
Une bonne nouvelle toute fraîche, parce qu'elle date d'un jugement qui a été rendu hier. Récusion à perpétuité pour un criminel de guerre. Le jugement rendu lundi 30 mai, donc hier, qui condamne l'ancien président tchadien Hissène Habré, marque un tournant pour la justice internationale et un immense soulagement pour les dizaines de milliers de victimes qui attendaient ce jour depuis plus de 25 ans. À l'issue d'un procès ouvert en juillet dernier, les chambres africaines extraordinaires à Dakar ont condamné Hissène Habré à la récusion à perpétuité après qu'il a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture commis au Tchad entre 1982 et 1990. 69 victimes, 23 témoins et 10 experts ont témoigné dans le cadre de cette procédure. Entre autres éléments de preuve, l'accusation s'est appuyée sur des rapports de recherche publiés par Amnesty International dans les années 1980. Un ancien employé d'Amnesty International a également témoigné durant le procès en tant qu'expert. Deux des victimes qui avaient porté plainte contre Hissène Habré sont mortes dans l'intervalle. Leurs enfants et leurs familles vont enfin savoir que justice leur a été rendue. Donc ça prouve que même des années après, comme aujourd'hui, on arrive quand même à juger des gens contre eux.
Tout à fait. Et oui, 40 000 personnes, effectivement, au bas mot, qui ont été exécutées sous sa présidence. Enfin, c'était un dictateur. Donc voilà.
Oui, oui.
Tout à fait. Qui a serré la main, comme je disais avant l'émission, parce qu'on en parlait, qui est venu serrer la main de façon très officielle à M. François Mitterrand, qui était à l'époque président de la République.
Tout à fait. Donc, une deuxième bonne nouvelle. Alors, je suppose que ces gens connaissent, c'est l'opération Condor en Argentine.
Alors là, c'est pour les plus anciens de nos auditeurs.
On va faire un quiz. Alors, c'était quoi l'opération Condor?
Moi, je peux le faire le quiz parce que j'ai la réponse. C'est à vous que je vais le quiz.
Moi, je donne une année. Je veux dire 1970 à peu près.
Ah, un peu après.
À peu près.
Mais tu as lu mes notes.
Oui, parce qu'on avait pris les mêmes avec Ronan.
Alors, l'opération Condor, un vaste plan coordonné de services de renseignement, a été lancé dans les années 1970 par les régimes militaires qui gouvernaient alors de facto l'Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay. Ils avaient pour objectif le partage d'informations sur les activités des militants des droits sociaux et des opposants politiques, ainsi que l'échange de prisonniers hommes et femmes, dont un grand nombre ont été torturés et victimes de disparitions forcées. Donc, un tribunal de Buenos Aires a condamné l'ancien président de facto, Reinaldo Biñón, à 20 ans d'emprisonnement. 14 autres militaires ont également été condamnés à des peines d'emprisonnement. Donc, pour des faits qui remontent comme des années 70.
Alors, oui, voilà, on se dit là, ils ont mis le temps, mais c'est quand même bien que ça se fasse aussi et que justice passe. Hein.
La dictature argentine, ça devait être entre 1976 et 1982.
Oh, oui. Toujours plus pointu, Didier. Nous, on n'a mis qu'une date.
Je rappelle que la Coupe du Monde de foot a eu lieu en Argentine en 1978.
Je me rappelle
déjà à l'époque, il y avait des mouvements de protestation en disant « faut pas aller faire la Coupe du Monde de foot dans un pays ».
On vous rappelle, faut pas aller au Qatar non plus.
C'était à l'époque de Maradona, je m'appelle.
Oui, dans faut pas aller, faut,
c'était à l'époque
faut
où je suivais encore le foot.
La Coupe du Monde dans un pays qui est une dictature et qui bafoue les droits humains. Il y avait déjà des campagnes à l'époque, je m'en souviens de ça.
Tout à fait, tout à fait.
Bon, moi je vais vous parler des femmes, d'un tout autre sujet. Bon, une bonne nouvelle... sur ce sujet-là, au Salvador, libération d'une femme emprisonnée après une fausse couche est une victoire pour les droits humains.
Alors, il faut que tu nous expliques ça, parce qu'une fausse couche, c'est quand même plutôt quelque chose de bien embêtant, mais qui soigne à l'hôpital et pas
bien,
en prison.
Voilà. Maria Teresa Rivera, 33 ans, a été incarcérée en 2011 et condamnée à 4 ans de prison pour homicide avec circonstances aggravantes, après avoir fait une fausse couche. La libération de Maria Teresa est un nouveau pas vers la justice dans un pays où les femmes sont traitées comme des citoyens de seconde zone, a déclaré Erika Guevara-Ozas, directrice du programme Amérique d'Amnesty International. Elle n'aurait jamais dû passer une seule seconde derrière les barreaux. Sa libération doit être le catalyseur d'un changement au Salvador, où des dizaines de femmes sont incarcérées en raison d'une loi anti-avortement ridicule qui met la vie de milliers de femmes et de jeunes filles en danger. Elle avait été arrêtée dans un hôpital. Sa belle-mère l'avait retrouvée évanouie dans sa salle de bain. Bon, le personnel hospitalier l'a signalée à la police et l'a accusée d'avoir avorté. Voilà.
Ah, c'est pas mal le travail du personnel hospitalier.
Oui,
là,
oui.
On pourrait dire.
Alors, cette dame a été libérée. Mais je vais vous parler d'un cas en Argentine. Et si vous voulez envoyer une action urgente, vous pouvez le faire parce que vraiment... c'est Belén, une jeune femme qui est maintenue en détention provisoire depuis 2 ans dans la province de Tucumán, dans le nord de l'Argentine, après avoir fait une fausse couche dans un hôpital public. Des membres du personnel médical et des policiers ont bafoué son droit à la vie privée et l'ont injustement accusée et maltraitée. Bon, alors, voilà. Donc, Amnesty exhorte les autorités à garantir qu'aucune procédure pénale ne soit menée à son encontre, ni à l'encontre de toutes les femmes et jeunes filles qui font des fausses couches ou souffrent de complications obstétriques. On les invite à demander aux professionnels de santé de garantir le droit de confidentialité que les médecins ont vis-à-vis de leurs patients et à mettre en place des mécanismes permettant de sanctionner quiconque manque à son devoir de protéger le droit des femmes à la vie privée. Évidemment, on demande de diligenter sans délai une enquête indépendante et impartiale sur les accusations de mauvais traitement et d'atteinte au droit à la vie privée imputables à des professionnels de santé et à des policiers. Donc, on conseille d'écrire au procureur général de la province, au ministre de la Santé, d'en informer l'ambassade de France, ainsi que
l'ambassade
d'Argentine en France. Ainsi que le bureau d'Amnesty International en Argentine.
Et comme d'habitude, si quelqu'un est intéressé par cette pétition, on nous envoie un petit message de notre adresse mail qui est amnesty.
Gmail.
Ah ben non, je vais terminer, moi. Attends.
On s'y met à trois, on va y arriver.
Moi, je
mais
la connais.
Il y a quand même un truc.
Je la connais par cœur.
Moi, il y a un truc là par rapport à ce que tu viens de dire, Ronan, par rapport à l'emprisonnement du militaire dans les États d'Amérique du Sud. On retrouve là aussi des États où il y a quand même de la délation par rapport au personnel médical. Moi, ça me choque. Que ce soit le personnel médical,
bien
qui
sûr.
Disent cette femme a fait une fausse couche et peut-être que ça ne serait pas vraiment une fausse couche. C'est vraiment assez terrible comme situation.
Oui, mais tous les États qui respectent pas les droits fondamentaux travaillent avec la délation. Et la délation, on trouve ça dans tous les milieux.
Mais là, c'est vraiment. Donc,
si vous êtes intéressé, vous envoyez un mail et après.
Je pense que.
Allez.
Bah, tu peux la dire, je pense, Didier.
amnesty.evreux@gmail.com.
Voilà.
À ce moment, je pense que le courrier, la lettre est déjà préparée. Donc,
Oui, tout est prêt. Tout est prêt. Ah oui, une bonne nouvelle quand même concernant ce sujet, c'est qu'en Irlande...
Et tu piques mon sujet, là ?
C'est pas une vraie bonne nouvelle. Non, enfin, une amélioration.
Parce que moi, c'est des vraies bonnes nouvelles.
En Irlande, la majorité pour l'IVG, enfin, 2/3 des Irlandais sont pour la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. 5% seulement des Irlandais s'opposent à l'avortement dans tous les cas. Cela fait 20 ans, donc plus de 2 décennies, que les gouvernements successifs refusent de réformer la législation irlandaise sur l'avortement.
Voilà, vous savez qu'Amnesty a écrit aussi par rapport à l'Irlande. Et il y a toute petite avancée avec une réflexion des politiques.
Il y a un projet de loi qui devrait être en discussion permettant de libéraliser l'accès à l'avortement, au moins en partie.
Une petite pause. You dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, say me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est le groupe d'Amnesty International Évreux pour son émission mensuelle. Et on vient d'entendre, c'était une deuxième chanson de Bob Dylan, ça aurait été une soirée musicale Bob Dylan.
Mais pas chantée par Bob Dylan.
Non, reprise par les Rolling Stones et qui s'appelle justement Like a Rolling Stone. Voilà. Edith, voulez-vous parler un peu de la situation pas très brillante des ONG, organisations non gouvernementales dont fait partie Amnesty, en tant qu'ONG, dans certains pays?
Alors ça va être rapide parce que l'heure tourne, on s'en rend compte, mais c'est vrai que j'aimerais quand même bien transmettre une inquiétude sur ce qui se passe dans plusieurs États et leur comportement par rapport aux ONG. Pour nous, les ONG, c'est des structures très importantes qui permettent d'équilibrer par rapport à certains gouvernements, d'amener une écoute, de faire connaître ce qui se passe dans un pays. Bon, effectivement, Amnesty est une ONG. ONG. Et là, bon, il y a un article dans la dernière chronique qui parle d'Israël. Donc, après la Russie, l'Inde, Israël s'en prend à son tour au financement des ONG, accusé d'être une cinquième colonne à la solde des puissances étrangères. L'attaque est frontale. Sous couvert de transparence, un projet de loi porté par le ministre de la Justice israélien envisage ainsi d'obliger les organisations non gouvernementales à mentionner leurs donateurs dans leurs publications. Dans le climat délétère où l'espace du débat contradictoire se réduit à peau de chagrin, où la peur est régulièrement instrumentalisée, la société civile est tentée par le repli. Donc là, on parle bien d'Israël. Hein. Depuis plusieurs mois, une campagne de diffamation menée par le gouvernement israélien et la droite nationaliste tente de décrédibiliser plusieurs ONG emblématiques qualifiées de taupes et de complices des terroristes palestiniens.
Ça, c'est un comble quand même.
Voilà, donc on voit un peu le, on voit un peu le travail des États, quoi. Dénonçant ces méthodes indignes d'une démocratie, quelques voix assument encore un rôle de vigie. Et des ONG telles que B'Tselem, Breaking the Silence of Physicians for Human Rights, Amnesty International Israel et d'autres encore poursuivent sans faiblir leur mission dans les territoires occupés, dans les prisons, auprès des migrants, au secours des Bédouins. Donc on voit bien un peu que tout travail auprès des minorités ou des personnes, persona non grata par rapport à un gouvernement soutenu par des ONG pour arriver à ne pas avoir les aides des ONG, on va les accuser d'être des espions pratiquement. Ça rappelle quelque chose au niveau de la Russie.
C'est toujours les mêmes argumentaires.
Voilà. Alors l'Inde, honnêtement, je sais moins cette problématique, mais manifestement, l'Inde aussi a essayé de restreindre certaines ONG. Alors il y a un billet qui est fait par Nicolas Cramayer, qui est quelqu'un que l'on connaît au niveau d'Amnesty France, et que j'ai envie de vous lire aussi parce qu'il résume un peu cette espèce de tendance inquiétante de certains États. Alors, l'exemple israélien s'inscrit dans une tendance inquiétante de disqualification de l'engagement en faveur des droits humains dès lors que ceci dérange les pouvoirs en place.
Ben c'est bien ça le problème, je t'interromps.
Voilà,
c'est parce qu'on dérange.
Ben oui, c'est pour ça que les gens se rendent compte qu'il y a des choses qui sont en train de se... Voilà, et on va dire qu'on aimerait bien que ça ne fasse pas boule de neige comme certaines autres mauvaises idées. Dans cette mondialisation de la remise en cause des droits humains, les copier-coller des discours comme les lois se multiplient d'un pays à l'autre. Et bien qu'à des échelles diverses, peu de pays sont épargnés. En 2012, c'était notre ami Poutine, précurseur en la matière, qui assimilait les associations des droits humains à des agents de l'étranger. La loi oblige toute association recevant des fonds de l'étranger à apposer sur toute publication ce qualificatif infamant dans le pays. Résultat, la fermeture de dizaines d'ONG, l'exil forcé de nombreux défenseurs. En Égypte, une loi prévoyant une autorisation gouvernementale pour toute subvention des ONG en provenance de l'étranger est opportunément ressortie. Résultat, perquisition, gel d'avoir, interdiction de sortie du territoire et risque de fermeture et de condamnation pouvant aller jusqu'à la perpétuité. La stratégie est diablement efficace. Faire passer les militants des droits humains pour des traîtres, des complices du terrorisme, des agents de puissance étrangère déstabilisant le pays, mais aussi effrayer les citoyens qui souhaiteraient s'engager. Ces mêmes accusations sont portées contre les membres de la Lucha en République démocratique du Congo, un mouvement de jeunesse citoyens non violents refusant pourtant toute subvention. En assimilant défenseurs des droits humains à ennemis de l'intérieur, les violations des droits ont de beaux jours devant eux et leurs auteurs aussi. Donc je pense que là, ça demande une bonne réflexion pour chacun et une vigilance. Enfin, pour tous.
Je ne savais pas que nous, en tant que militaires des droits humains, on était, comme tu as dit, c'est quoi des traîtres. Alors, on est des traîtres, des terroristes.
Des ennemis de l'intérieur.
Des agents des puissances étrangères et je ne sais pas quoi encore. Mon Dieu, que de qualificatifs. Je vais dormir un peu plus fier ce soir.
Mais je vous engage à lire dans la dernière chronique l'article sur Israël qui met bien un peu comment ce pays essaye de, voilà, d'arrêter toute aide aussi bien aux Palestiniens qu'aux Bédouins, et la résistance du peuple quand même. Et quelques et juste bon, une phrase d'un militant qui met « En réalité, c'est le gouvernement qui a peur. Il a peur de la solidarité car elle va totalement à l'encontre de sa politique. La solidarité repose sur un sentiment d'égalité et c'est exactement ce qu'il ne veut pas. Le fait qu'il y ait des Israéliens et des Palestiniens dans le mouvement Physical for Human Rights lui est insupportable car on est exactement les mêmes. J'aime bien cette phrase.
Ouais. Bah oui. Et article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les êtres humains sont doués de raison et de... Je ne sais plus comment c'est. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Voilà. Et c'est dans les ONG qu'on les trouve.
Ça dérange toujours tout
donc,
ça.
Donc soutenez-les.
Notre actualité locale. On va où, on va où au mois de juin
Alors,
Renan,
le week-end
Renan.
Du 24.
Ah, mais sauf qu'on va faire un petit tour à l'hippodrome, non?
C'est vrai, oui, on va sur l'hippodrome d'Evreux, on va au Festival Rock comme tous les ans.
Tout à fait.
Donc, on y sera les 24 et 25 juin, les deux jours complets, comme tous les ans aussi. Donc, vous, n'hésitez pas à nous retrouver là, c'est quand même une grosse manifestation sur, dans l'année culturelle à Evreux.
C'est là,
et l'année musicale.
L'été.
On
et
y
surtout,
sera.
Et on aura l'action dont tu as pas parlé en début d'émission.
Bien sûr, on va présenter l'action réfugiée puisque c'est l'action qui va durer tout l'été. On vous y attend, donc soyez nombreux à venir nous soutenir. On espère qu'il y aura des musiciens qui vont intervenir pour nous pendant leurs concerts.
Si vous en connaissez.
On va essayer d'en convaincre quelques-uns. Et puis de toute façon, on sera présent pendant les deux jours. Et donc n'hésitez pas à venir vous renseigner sur le stand, n'hésitez pas à prendre tous les renseignements et surtout n'hésitez pas à agir avec nous puisque c'est en agissant qu'on fait bouger les choses, sinon il ne se passe jamais rien, c'est sûr. Notre actualité aussi radiophonique, c'est le 28 juin,
tout à fait.
Mardi 28 juin.
Juste après le festival.
De 19h à 20h sur l'antenne de Principe Actif. Encore une fois, je rappelle qu'on a 3 années ou 4 années, je ne sais plus, de podcast sur le site principeactif.net.
Et sur le site, vous pouvez faire des commentaires maintenant. Vous pouvez nous parler. J'ai vu ça.
Et puis, je pense qu'elle.
Et en plus, je pense que ça sera la dernière.
Avant la pause estivale.
Avant la pause estivale.
Pendant les vacances, effectivement, on est tous plus ou moins en repos à droite et à gauche, forcément. Et qu'on reprendra au mois de septembre. Et j'ai entendu dire qu'au mois de septembre, on serait peut-être un peu plus souvent sur l'antenne. Il y a quelqu'un
on
qui m'a
voir.
Parlé de ça.
On va voir. On a trop de choses à vous dire, mais c'est compliqué de faire deux émissions. Peut-être.
En tout cas, on se retrouve le 28 juin sur l'antenne de Principe Actif.
Je viens d'avoir une petite info en direct, là.
Il y a notre ami du laboratoire qui vient d'arriver.
Qui vient de me dire qu'a priori, peut-être que le 28 juin, ça sera déjà la pause estivale.
Ce sera déjà la pause estivale.
Parce que généralement, c'est vrai qu'il me semble qu'au niveau du rock, que la pause estivale est à part rapport au rock.
Ça n'empêche pas qu'on fasse l'émission.
Ça sera surprise, deuxième surprise.
Ça sera une surprise parce que c'est en direct, je viens de l'apprendre.
On a toujours fait l'émission le dernier mardi du mois de juin. Hein.
Oui, mais d'habitude, le rock était après, le dernier mardi. Parce que Principe Actif, ça s'arrête au rock.
Que d'incertitude.
Non, je pense qu'on sera à l'antenne le 28 juin, il n'y a pas de raison.
Autrement, ça serait. Oui, mais on fera en sorte d'être à l'antenne.
Voilà. Donc, et sinon, retrouvez-nous au Festival Rock. Et puis, n'hésitez pas à aller sur le site, encore une fois, www.amnesty.fr. Si vous voulez nous intéresser à nos actions locales au niveau du groupe d'Evreux, on vous rappelle le mail amnesty.evreux@gmail.com. Je vous rappelle aussi qu'on a des locaux. Si vous avez envie de nous voir, c'est possible qu'on se rencontre. On fixe des rendez-vous, vous nous passez un petit mail.
Voilà, vous avez entendu les militants, si vous voulez être des affreux mais ennemis de l'intérieur. Voilà.
Venez nous voir pendant le festival parce que c'est toujours intéressant de discuter avec des gens parce que les gens ils nous écoutent, mais on ne sait pas qui nous écoute. Donc si vous venez nous voir, nous disons on vous écoute tous les mois, ça serait sympa de pouvoir partager ensemble. Quoi.
Et comme disait Edith, si vous voulez des terroristes agents de l'étranger, c'est ça hein. Terroristes agents de l'étranger.
Je crois que ça serait bien. On pourrait faire ça.
On a déjà été accusé par les Russes et tout ça.
On est toujours accusé de tout. De toute façon, bien sûr. Oui. Mais bon,
je ne citerai pas le nom parce qu'on en parle à chaque émission et ça lui fait un peu trop de pub, je trouve.
On a à peu près notre conscience pour nous, donc il n'y a pas de problème.
Oh, là, il n'y a pas de souci.
Bon, tu peux envoyer le générique.
Bonsoir pour ce soir.
Bonne soirée.
Allez, bonne soirée au mois prochain. Donc, comme a dit Didier, on sera là le 28. On sera là.
À bientôt.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont...